io vota le crève. Et je me prénonce en chantant, camarade, tu n'es pas seul, au plus profond de ta détresse, tu n'es pas seul.
Le ciel est sombre, l'avenir t'apparaît noir, la vie te semble sans espoir. Camarade, reprends courage, tu n'es pas seul.
Paysan, ouvrier,
chômeur,
jeunes gens et jeunes filles, fils du peuple, amis,
camarades,
le parti communiste vous appelle.
Paysan, ouvrier, chômeur,
jeunes gens et jeunes filles, fils du peuple, amis, camarades, entendez la voix du parti.
Venez lutter pour votre cause.
Venez prendre la vie en main.
N'attendez pas, le temps presse.
Le parti communiste vous appelle à prendre l'avenir en main.
Camarades, la vie est à nous.
Camarades, venez avec nous.
En avant, sous le grand et invincible drapeau de Marx, Engels, Lénine, Staline. En avant, pour le succès du Front populaire, du travail, liberté et de la paix. En avant, pour le triomphe de la République française des Soviets. Vive la France forte, libre et heureuse, que veulent et que feront les communistes.
Camarade, tu n'es pas seul, tu as avec toi Guillaume Yom qui, une fois de plus, va tenter de répondre à la question. Quelle est donc la position du musicien au sein des rapports de production culturelle ?
Elle est multicarte ce soir, Pierre, puisque, en effet, nous sommes habitués à situer et comprendre les positionnements politiques des militants que nous côtoyons par leur appartenance politique et notamment leurs multiples appartenances successives au cours de leur carrière militante. Il est commun de savoir qu'un militant CGT est souvent encarté au PC, de retrouver des militants de la Ligue au sein du Sud, et il nous arrive facilement d'évoquer d'anciens de la Ligue, d'anciens de Ralfron, d'anciens du PC, ou l'inverse, du ralliement d'un tel à la FA ou d'une telle à LO. Eh bien, figure-toi, Pierre, qu'il en va de même lorsqu'on s'adresse On s'intéresse à l'histoire du rock'n'roll. L'appartenance multiple de musiciens à différents groupes est une des bases à prendre en compte pour tout rock'n'rollologue qui s'intéresse à la genèse et aux influences de ses groupes préférés. À cet égard, les Blue Orchids sont un groupe particulièrement intéressant. Les multiples appartenances des membres avant, pendant et après la brève existence de la formation méritent l'attention. En effet, les Blue Orchids, donc les orchidées bleues, se sont formés à la toute fin de l'année 1979 à Manchester d'une scission au sein du plus grand groupe de rock du monde, je vous rappelle The Fall. Donc Martin Vrama et Una Baines étaient jusqu'alors guitaristes et claviers au sein de la formation de l'irascible Mark E. Smith. Ils aspirent alors à plus de lyrisme que le proto-punk de The Fall et donc s'engouffrent dans la scène New Wave qui émerge alors. Il recrute alors quelques musiciens, le guitariste Craig Gannon, qui jouera par la suite dans The Smiths, le bassiste Richard Harrison, qui jouera par la suite dans Stereolab. Ils choisissent de produire un rock tout fait de mélodies retorses, mais où se dégage un style élégant, piochant dans le son psychédélique de la fin des années 60. Manque de bol pour eux, Manchester n'est pas en fait à l'époque le meilleur endroit pour ce type de musique. La rigueur et l'intransigeance qu'ils avaient empruntée à The Fall se marient mal avec leurs aspirations à davantage de sensibilité. Leur son incisif, mi-pop, mi-expérimental, éveillera pourtant l'intérêt d'une certaine Nico, donc la l'égérie du Velvet et de Andy Warhol, qui traîne à ce moment-là ses guêtres dans le nord de l'Angleterre. Ils partent en tournée avec elle et collaborent avec ses disques. Ils finissent parallèlement par sortir leur disque, leur album emblématique « The Greatest Hits », qui malheureusement est un échec commercial qui mettra fin à leur formation après un dernier single absolument fabuleux. Ils se reformeront épisodiquement au cours des années 80-90, mais leur charme sera passé et Martin Brama et Una Baines finiront par retourner dans le giron de leur groupe de formation The Fall.